Cet appareil que l'on démonte est un accélérateur de particules, une de ces gigantesques machines où s'élabore la physique nucléaire moderne. Mais plus que tout autre peut-être, cette machine a une histoire. Une histoire extraordinaire, faite de progrès technologiques, de découvertes scientifiques et de solidarité humaine. L'histoire commence en 1958. C'est l'époque des premiers satellites artificiels, les Spoutnik. En France, avec les troubles qui agitent l'Algérie et le retour du général de Gaulle, c'est l'avènement de la Ve République. À Orsay, vient de s'ouvrir le laboratoire de physique nucléaire, créé par Irène Joliot-Curie, pour être un grand centre de recherche. Le premier accélérateur que l'on y construit est un synchrocyclotron à protons, mais déjà, on songe à explorer le noyau à l'aide de particules plus lourdes. Et il est décidé de construire un cyclotron pour accélérer les ions lourds. Le proton, chargé positivement, est un noyau d'hydrogène. Le choc d'un tel projectile contre un autre noyau, ensemble de protons et de neutrons, provoque des réactions nucléaires qui sont très utilisées vers 1960 pour étudier la structure du noyau. Les ions lourds sont des noyaux atomiques de carbone, azote, oxygène, néon, jusqu'en principe à l'uranium. Les collisions de tels projectiles avec d'autres noyaux devraient provoquer une variété plus riche de réactions nucléaires. Plus riche, mais plus difficile à étudier et à interpréter. Et tandis que les installations se mettent en place, le débat se poursuit entre partisans et adversaires de cette nouvelle physique. 1966. Les Américains s'enlisent au Vietnam. En France, à Cannes, Claude Lelouch triomphe avec un homme et une femme. À Paris, Alfred Kastler reçoit le prix Nobel de physique. Et à Orsay, le cyclotron à ions lourds, enfin construit, délivre son premier faisceau.
Alors on monte la tension.
40. 50.
C'est pas lui.
55.
Voilà le faisceau.
Oh.
C'est un premier succès. Mais le projet comporte une seconde étape, beaucoup plus ambitieuse, dont le secret réside dans la production des ions. Les ions sont des atomes auxquels on a enlevé plusieurs électrons de façon à leur donner une charge électrique positive afin de pouvoir les accélérer. Cet épluchage peut se faire dans une source d'ions en bombardant les atomes par les électrons rapides d'un arc électrique. Mais dès 1955, Robert Basile, élève d'Irène Joliot-Curie, avait inventé une méthode beaucoup plus efficace.
J'ai donc imaginé de préaccélérer des ions peu chargés à l'extérieur du cyclotron, d'amener ces ions peu chargés au centre du cyclotron et là, de les faire passer dans une petite quantité de matière, une feuille fine ou bien un petit jet de gaz. Les ions, déjà assez rapides, se heurtent à cet obstacle et perdent une partie de leur revêtement d'électrons. Ensuite, ils sont pris en charge par le cyclotron et en sortent avec une énergie décuplée.
Le projet est étudié par un groupe d'ingénieurs dirigé par André Cabrespin. Le choix se porte sur un petit accélérateur linéaire. Des essais sont effectués sur une maquette conçue par un jeune ingénieur, Claude Billette, qui deviendra plus tard le premier chef de machine d'Alice.
Dans un accélérateur linéaire, les ions sont accélérés progressivement par les champs électriques que l'on crée entre des électrodes. Entre une électrode de potentiel V positif et une électrode de potentiel V négatif, les ions reçoivent un gain d'énergie de 2V par charge. Pour que l'accélération puisse continuer, il faut changer rapidement le signe du potentiel de l'électrode au passage de l'ion. De même pour la suivante. Compte tenu de la vitesse des ions, qui peut atteindre 10 000 km par seconde, il faut changer le signe des électrodes 25 millions de fois par seconde. On utilise pour cela une tension accélératrice haute fréquence. On a pensé réaliser ainsi un petit accélérateur d'une dizaine de mètres de long, comportant 56 électrodes à des potentiels haute fréquence élevés, ce qui permettait d'atteindre une énergie finale suffisante pour assurer un épluchage efficace au centre du cyclotron.
La réalisation de l'accélérateur linéaire est confiée à la société française Segermev. Cependant, le cyclotron continue de fonctionner. Henri Sergol, aujourd'hui directeur de l'Institut de physique nucléaire, se souvient de ses expériences.
Notre objectif était alors d'étudier l'organisation des nucléons, les protons et les neutrons, dans le noyau. Il s'agissait déjà d'expériences assez complexes, mettant en jeu un important matériel mécanique et électronique. D'où la nécessité d'exploiter en continu, 24 heures sur 24, avec une équipe de techniciens et de physiciens qui devaient assurer un contrôle très strict du bon fonctionnement de l'ensemble accélérateur et dispositif expérimental, et bien entendu un bon contrôle du déroulement de l'expérience.
L'accélérateur linéaire est livré fin 1967. C'est un objet très esthétique, avec ses électrodes de cuivre flamboyantes. Malheureusement, le faisceau ne peut être accéléré que sous vide, et un capot recouvre ses merveilles, les dissimulant à la vue. 1969. Le Concorde vient d'effectuer son premier vol expérimental. L'ensemble Alice, constitué de l'accélérateur linéaire et du cyclotron à ions lourds, voit le jour. C'est la première machine au monde couplant deux accélérateurs différents. Alice délivre son premier faisceau de krypton en 1970. Ce faisceau est si faible qu'on discerne à peine sa trace dans une enceinte remplie d'hélium. Cependant, c'est une première mondiale et un grand succès pour Marc Lefort qui a mené à bien le projet.
Ce faisceau était justement particulièrement bienvenu. En effet, on recherchait des éléments très très lourds au-delà de l'uranium. Les éléments chimiques naturels, de l'hydrogène à l'uranium, c'est-à-dire d'un proton à 92 protons, sont suivis d'éléments transuraniens qui ont été découverts par les Soviétiques et par les Américains à cette époque-là, ou même dans les années qui ont précédé. Au-delà, on sait qu'il y a des éléments très très instables, encore beaucoup plus radioactifs et à vie beaucoup plus courte que les transuraniens. Ces éléments très instables, on a peu de chances de pouvoir les isoler. Par contre, on avait prévu un îlot de stabilité, donc d'éléments beaucoup plus lourds, de 114 à 128, qui auraient pu être synthétisés à condition d'avoir des projectiles suffisamment lourds. C'est la raison pour laquelle Michel Rieu et moi-même, nous avons été les responsables d'une expérience dont le but était de rechercher des éléments super lourds.
Oui, alors l'expérience consiste à envoyer un faisceau de krypton d'énergie suffisante sur une cible de thorium ou d'uranium. Et l'objectif, c'est de former un noyau de fusion qui se trouve dans la zone des superlourds. Ce noyau de fusion a une énergie d'excitation qu'il peut évacuer de plusieurs façons. Soit par émission de neutrons, et dans ce cas, on reste dans la zone des superlourds, soit par fission, c'est-à-dire la séparation en deux fragments à peu près égaux, et dans ce cas, on n'observe pas du tout le noyau de fusion. Par conséquent, dans cette expérience, une question cruciale était, est-ce que la fission n'est pas trop probable de façon à ce qu'on puisse observer les noyaux de fusion.
Les noyaux superlourds, éjectés de la cible par le choc du projectile, devaient être triés et identifiés à l'aide d'un énorme électroaimant conduisant ces noyaux vers une mosaïque de 16 détecteurs placés à sa sortie. Dans chacun de ces détecteurs, l'impact du superlourd devait provoquer un petit effet électrique qu'il fallait amplifier et enregistrer. Egidio Festa, ingénieur en électronique, allait traiter ce problème.
Depuis le milieu des années 50, l'électronique ne cessait d'évoluer. Nous étions passés des tubes électroniques aux transistors, avec un gain considérable en volume et surtout en énergie. Au moment où les expériences de recherche des superlourds s'organisaient, nous disposions déjà de circuits intégrés de cette taille, dans lesquels une vingtaine de transistors environ étaient intégrés. C'était aussi l'époque où les premières calculatrices de poche apparaissaient, et il y avait à ce moment-là la miniaturisation dans le domaine des postes radio, des postes de télévision. Les appareils de laboratoire également bénéficiaient de ce processus et on gagnait beaucoup en volume et en performance. Nous nous sommes orientés vers le choix d'un bloc Tridac qui comporte 4096 mémoires que l'on peut découper en 16 fois 256. C'est avec cet appareil qu'ont été enregistrées les données fournies par l'expérience superlourde.
Après 18 mois de tentatives, dans des conditions difficiles, dues à une intensité de faisceau très faible, à des réglages très fugaces, chercheurs et techniciens doivent se rendre à l'évidence, les superlourds ne sont pas au rendez-vous. On cherche pourquoi l'expérience a été négative. Deux explications sont possibles. Soit les éléments superlourds n'existent pas, soit la méthode choisie pour les produire est inopérante. C'est la seconde explication qui s'avérera la bonne, ce qui d'ailleurs n'exclut pas la première. Lorsque des noyaux aussi lourds que le krypton et l'uranium entrent en collision, la réaction de fusion ne se produit plus. Les charges électriques répulsives des deux noyaux sont si fortes qu'après une tentative pour s'unir dans la fusion, ils se séparent de nouveau. C'est un nouveau type de réaction nucléaire, inconnu jusque-là, et cette découverte va transformer l'échec des superlourds en un succès retentissant. Et à Gif-sur-Yvette, en mai 1975, est organisée la première réunion centrée sur l'étude de ces nouvelles réactions. Elle a un grand succès, et regroupe tous les spécialistes mondiaux. Cette période marque la consécration de l'accélérateur ALICE. Un grand nombre de physiciens nucléaires s'intéressent désormais à la physique des ions lourds. De France et de l'étranger, les demandes de temps de faisceaux pour des expériences affluent. Un comité scientifique est chargé d'examiner ces demandes et de réglementer l'attribution du faisceau. Un crédit est obtenu pour augmenter le nombre de lignes qui passent de 3 à 9, Xavier Tarago, alors responsable scientifique d'ALICE, organisera leur mise en place. La nouvelle salle expérimentale a belle allure et sa principale attraction est le doublet tournant, portion mobile qui se connecte alternativement sur chaque ligne utilisée. Cette solution élégante et économique, imaginée par les mécaniciens du laboratoire, fait l'admiration des visiteurs. Tout comme le petit laser, dont le faisceau fin et puissant sert de cordeau pour l'alignement géométrique des appareils dans l'axe du faisceau. Mais cette période est aussi celle des deux chocs pétroliers et le début d'une longue crise qui aura une incidence néfaste sur les budgets de la recherche. Sur l'accélérateur, on redouble d'ardeur et de travail. Dans la course à la découverte, ALICE a désormais deux concurrents redoutables, le Super ILAC de Berkeley et l'UNILAC de Darmstadt en Allemagne. Ces deux géants qui ont coûté 100 fois plus cher qu'ALICE, produisent des faisceaux plus lourds et plus intenses. La supériorité technique d'Alice est déjà révolue. Il reste l'avance scientifique prise par les physiciens. Elle-même, cependant, va s'amenuisant. De 1975 à 1980, c'est la période de pleine production scientifique. Les études de collision de noyaux conduisent à quantité de résultats intéressants. Les travaux français sont présentés dans toutes les conférences internationales. Alice se taille également un joli succès dans le domaine de la production de nouveaux noyaux. Ce succès est surtout l'œuvre d'une équipe dirigée par Yvon Le Bayec, chercheur au CNRS, et par ailleurs grand amoureux de la mer, qui a importé d'Amérique et remarquablement adapté une technique de collection rapide de noyaux, dite du jet d'hélium. 30 nouveaux noyaux sont ainsi découverts. Sur la carte des isotopes, qui symbolise les conquêtes de ces aventuriers modernes que sont les chercheurs, et où chaque noyau est représenté par une case, de nouveaux territoires apparaissent. Mais la concurrence avec les chercheurs de Darmstadt est rude. Depuis les débuts d'Alice, l'informatique a progressé énormément. Dans les années 60, la première partie d'échecs opposant deux ordinateurs, un américain et un soviétique, avait été un événement mondial. Maintenant, on trouve des jeux d'échecs électroniques fonctionnant sur pile. En 1978, la micro-informatique entre en scène sur Alice avec l'installation d'un mini-ordinateur PDP-1134 associé à un microprocesseur, une puce. Les résultats sont ainsi visualisés pendant l'expérience afin d'assurer un contrôle de son bon fonctionnement et sont enregistrés sur bande magnétique. Par la suite, ils sont traités complètement à l'aide d'un gros ordinateur. Des expériences de plus en plus complexes deviennent ainsi réalisables. Les faisceaux d'ions lourds, précieux outils pour le physicien nucléaire, allait se révéler également précieux pour le physicien atomiste qui se préoccupe de l'organisation des électrons autour du noyau. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, un processus atomique, l'épluchage des ions traversant une feuille mince, qui était à l'origine du projet Alice. Le physicien atomiste, que ce phénomène intéresse, va pouvoir l'étudier parce que ces ions très épluchés qui sortent de la feuille émettent une lumière tout à fait caractéristique. En analysant cette lumière, comme avec un prisme, des chercheurs lyonnais venus travailler sur Alice dès 1971 vont identifier de nouvelles raies spectrales. Ils reconnaîtront notamment dans le spectre émis par des ions de fer des raies présentes dans la lumière solaire mais dont l'origine était inconnue. Ainsi, les résultats obtenus sur Alice, instrument de physique nucléaire, par des physiciens atomistes, seront précieux aux astrophysiciens pour comprendre notre Soleil à tous. Comme cela arrive souvent, la technologie de pointe, développée pour les expériences de physique nucléaire, allait se révéler riche d'applications dans d'autres domaines. Yvon Le Bayec en témoigne.
Cette machine a été réalisée à partir d'un appareil conçu pour la mesure de masse de noyaux radioactifs produits sur l'accélérateur Alice. Elle permet maintenant la mesure avec précision de la masse de gros assemblages d'atomes, c'est-à-dire de grosses molécules. C'est en quelque sorte une balance à molécules.
Cette balance, extrêmement sensible, constitue désormais un outil très précieux pour les biologistes. Elle peut être utilisée dans la mise au point de nouveaux antibiotiques, tout comme dans certaines expériences destinées à comprendre le mécanisme du cancer. Dès 1975, un nouveau projet d'accélérateur est né. Issu de la lignée d'Alice, c'est un ensemble de 3 cyclotrons en cascade, un petit injecteur compact et 2 énormes cyclotrons à secteurs séparés. C'est un projet magnifique qui a pleinement profité de l'expérience technique et scientifique acquise sur Alice, ainsi que des foudroyants progrès de la technologie. En août 1975, à l'occasion du plan de relance économique, Michel Dornano lui donne le feu vert. le GANIL, grand accélérateur national d'ions lourds, sera construit à Caen. Il est mis en chantier en 1976. Marc Lefort, pionnier français des ions lourds, en est nommé directeur. Mais pour Alice, cette bonne nouvelle porte en même temps une lourde menace. En effet, la crise économique, conséquence des deux chocs pétroliers, frappe de plein fouet la recherche scientifique. Et malgré les succès de la médecine nucléaire, qui sauve chaque année des milliers de vies, et de l'énergie nucléaire, qui restaure l'autonomie énergétique de la France, la physique nucléaire fondamentale, qui a produit ses fruits inestimables et offre encore de vastes perspectives, voit diminuer chaque année le budget qui lui est imparti. Dans le désert de cette régression, GANIL apparaît comme une oasis. Mais Alice ne sera pas épargnée.
Des postes, des crédits, des postes, des crédits, des postes, des...
Dans un climat social quelque peu dégradé par les mouvements de grève du personnel technique, le travail continue sous la responsabilité de nouveaux hommes. Luc Martial, puis André Richaume, chef de machine, Henri Sergol, puis René Bimbaud, responsable scientifique.
Quand j'ai accepté de prendre la responsabilité d'Alice, c'était en 1980, l'accélérateur était menacé de fermeture à très brève échéance. Pour nous, les physiciens qui avions des programmes de recherche à l'échelle de plusieurs années, cet arrêt paraissait vraiment prématuré. Alors, nous avons mis sur pied un plan de défense de la machine qui a été présenté dans ce dossier. Ce plan s'appuyait sur trois arguments principaux. D'abord, l'accélérateur fonctionnait très bien. En fait, il n'y avait jamais eu si peu de pannes. Ensuite, la production scientifique en physique nucléaire était toujours très bonne. Et récemment, on venait même de découvrir encore de nouveaux phénomènes malgré la concurrence des Allemands et des Américains. Mais surtout, la grande originalité d'Alice, c'est qu'elle s'ouvrait de plus en plus aux disciplines autres que la physique nucléaire, ce qui permettait d'envisager la prise en charge de ses coûts de fonctionnement par plusieurs disciplines. Et d'autant plus que nous venions de découvrir tout récemment un nouveau domaine d'application pour les ions lourds, celui de la recherche spatiale.
Oui, l'espace a besoin d'Alice. Les ingénieurs du Centre national d'études spatiales se trouvent confrontés, comme leurs collègues américains de la NASA, à un mal nouveau qui frappe les composants électroniques embarqués à bord des satellites. Ce mal provient des ions lourds, peu abondants dans le rayonnement cosmique, mais capables, lors de leur passage dans un transistor, de simuler un signal. Avec un peu de malchance, ce signal peut être un ordre catastrophique, amenant la déstabilisation du satellite. Il faut comprendre ce phénomène et trier parmi les composants électroniques ceux qui résistent le mieux aux ions lourds. Dans un contexte de concurrence internationale, sur fond de guerre économique, le CNES recherche un accélérateur d'ions lourds adapté à ce type de test. Alice est le seul en France. Ici encore, la recherche fondamentale débouche sur des applications imprévues. La collaboration entre physiciens nucléaires et ingénieurs du CNES s'avère fructueuse. Des méthodes de test sont mises au point et en 5 ans, avec le concours de la Matra, des séries de composants seront testées avec succès. Mais revenons en 1981. François Mitterrand vient d'être élu à la présidence de la République. Le colloque Recherche et technologie, qui encourage la pluridisciplinarité, permet d'espérer un renouveau pour Alice. Mais cet espoir sera sans lendemain. Après une réduction progressive de son temps de fonctionnement, Alice sera définitivement arrêtée en 1985. Ainsi se terminera une aventure exceptionnelle qui aura duré presque 20 ans. L'accélérateur Alice sera démonté en 1986, le cyclotron transféré en Yougoslavie. L'accélérateur linéaire, classé monument historique en 1987, sera exposé sur le campus d'Orsay. l'enfant naturel d'Alice, légitimé par le succès de la physique des ions lourds, le GANIL, machine nationale, était entré en fonctionnement en janvier 1983. Il était l'héritier du savoir scientifique et technologique. Il était, pour un temps, un haut lieu de la physique nucléaire internationale. Pour les hommes, techniciens et chercheurs, regroupés autour de lui, l'aventure recommençait.
Thank you.